Quatrième partie, chapitre 16. Myriel se défend. Madame Champieu du château reprenait goût à vivre. Elle respirait mieux, dormait mieux, sa taille, sa tête s'étaient redressées. Ce pauvre Lierre avait retrouvé un tronc robuste où s'accrocher. Et c'était maintenant Laurent Mestru que l'on consultait sur toute chose. Le lundi matin, de très bonne heure, il était venu inspecter les échelles, il avait reçu les couvreurs qui arrivaient par le premier train, il avait promis de passer à midi et, le soir encore, trop heureux d'un prétexte pour apercevoir Rosanne. Le lendemain, il assista à une conférence entre Madame Champieu et le maître couvreur et il manifesta un vif intérêt pour toutes les questions de Baptiste. Mais, hors de ces conversations qui l'excitaient un peu, il se sentait étrangement las et déprimé. Il attribuait cette fatigue au travail prolongé des labours qu'il fallait terminer avant que le sol fût gelé profondément, Élie Mestru ayant décidé d'ensemencer en blé d'hiver plus de superficie que l'année précédente. Les visites fréquentes de Laurent au château ne furent pas sans remuer les esprits du village. Le boulanger demanda à Sébastien Champieu, de but en blanc, s'il était brouillé avec sa belle-mère, car le boulanger était un homme sans délicatesse qui, au lieu de fines allusions, vous lançait des pains de 6 livres à la tête. Sébastien rentra chez lui, un peu soucieux. Il chercha sa femme dans les diverses pièces de la maison où elle avait coutume de se livrer à des agitations futiles qu'elle appelait des occupations. Il ne la trouva pas et souhaita, ce qui ne lui arrivait guère, qu'elle rentrât. « Mais où passes-tu donc ton temps ?» lui demanda-t-il, quand enfin la famille se trouva réunie pour le souper, dans la clarté de la grande lampe en cuivre rouge et fer noir, trop ouvragée, trop rutilante, et suspendue à des chaînes trop longues dont Madame Sébastien avait fait l'emplette en songeant à la hauteur des plafonds du château. Le dressoir aussi était trop monumental. Depuis la mort de son beau-père, Madame Sébastien prêtait à rire à tous ses fournisseurs en demandant avec insistance et pour tous les objets le style château. « Je sais ce qu'il vous faut, madame, lui disait-on pour la flatter, tout en se moquant d'elle quand elle choisissait un tapis ou même une casserole en aluminium. « Style château, n'est-ce pas ?» Elle disait « Cela nous donnera de l'unité quand nous déménagerons. » « Eh, mon ami, répondit-elle tout en servant l'omelette, tu n'imagines pas comme il faut que je pousse à la roue. Nous avons discuté à la cure sur les chemises de nos enfants pauvres. Ces dames prennent chaque année le même genre de flanellette rose. À force d'insister, j'ai obtenu qu'on prenne une rayure plus étroite. Ça ennuiera un peu les mamans qui emploient les vieilles chemises pour accommoder les neuves quand elles s'usent. Mais le changement en tout est une bonne chose. » Et puis, j'ai appris qu'Henriette Courtel fait soigner sa jambe au rebouteux. J'y suis allée tout exprès pour lui dire qu'elle perd son temps et son argent. Je vous demande un peu, il y a 9 ans que sa jambe est courbée. C'est incurable, je le lui ai répété pendant 1 heure. À la fin, elle pleurait. Mais si vous croyez que je l'ai persuadée... Non, elle continuera à se faire masser par cette espèce de charlatan qui lui inspire confiance parce qu'il a de gros pouces. « Vous feriez mieux de prendre votre partie de boîté une fois pour toutes, lui ai-je dit. Après cela, je me suis trottée jusqu'au passage à niveau. Je voulais dire à la garde-barrière qu'elle avertisse le laitier Ulrich qu'il a été vu traversant la voie 1 minute avant le passage du train. Il se fera écraser une belle fois ainsi que son cheval, pauvre bête. » La garde-barrière m'a répondu très sottement. Elle a prétendu que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais l'altruisme consiste justement à se mêler de ce qui ne vous regarde pas. L'altruisme, répéta Myriel. Comme tu es moderne, maman. C'est un mot que Madame Liumenet emploie continuellement, donc je suis tranquille. Son mari le lui aurait corrigé s'il n'était pas juste. En résumé, Sébastien, tu vois que j'ai passé mon temps à m'occuper des autres. Tu n'es pas allé sur le toit du château voir comment on le répare? Non, Sébastien, il est entendu que nous laissons grand-maman se tirer d'affaire, répondit sa femme d'un ton aimable et détaché. Elles sentirent fort bien, paraît-il, avec l'aide de Laurent Mestru qui inspecte les travaux deux ou trois fois par jour. Madame Sébastien resta parfaitement calme. Un sourire se jouait sur ses lèvres. « C'est pas gentil de lâcher grand-maman comme ça, » dit le jeune Louis. « Nos étrennes pourraient s'en ressentir. »« Pourquoi tu se rictuses, maman ?»« Voyons, Louis, ne sois pas impertinent, » dit sa sœur. « Je parle latin, » répondit-il. Et leur mère les trouva tous deux bien gentils. « Si je souris, » reprit-elle, « c'est que je pense à un mariage que ce toit va faciliter. »« Un mariage de chat, alors ?» récidiva Louis, qui tombait décidément dans le mauvais goût. Comme la bonne entrée, apportant le légume qu'elle plaça à droite du plat de viande froide et que Madame Sébastien déplaça immédiatement pour le mettre à gauche, la conversation fut très heureusement interrompue. « On pourra dire, en tout cas, reprit la maîtresse de maison, quand Marianne se fut retirée, on pourra dire que j'ai donné un fin coup de pouce au mariage de Rosanne. » C'est moi, je pense, qui en ai fourni la première lueur à Madame Dupommier, à Madame Clotilde également, et maintenant, Laurent Mestru fait sa cour grâce aux occasions que la réparation du toit lui procure quotidiennement. J'ai manœuvré, je ne m'en cache pas, mais j'ai bien manœuvré. Tu ne saisis pas le rapport, fit-elle en se tournant vers son mari. Non, les hommes n'ont pas de subtilité. Je ne dis pas cela pour toi, Louis. « Mais il importe, n'est-ce pas, que grand-maman sente le vide se faire autour d'elle. Alors, elle se souviendra qu'elle a des proches. Alors, elle n'aura qu'à lever un doigt et nous accourons. Si Rosanne se marie au printemps, notre pauvre grand-maman s'affolera. Elle voudra remplacer les dames du pommier. Elle ne trouvera pas, mais nous sommes là. Je sens que, cette fois, la partie est gagnée. « Tu es un vrai génie, maman, » dit Myriel. Et penser que j'ai voulu te contrecarrer. Toi, petite fille, comment ? Demanda sa mère d'un ton de plaisanterie. J'ai voulu revendiquer pour papa le plaisir de surveiller les couvreurs et l'ôter à Laurent Mestru. J'ai téléphoné sous son nom qu'il y renonçait. Elle lança sa petite bombe d'un air détaché, ennuyé, où il n'y avait même pas de bravade. Elle attendit l'explosion. Chic, dit son frère. « Tiens, c'était toi, j'aurais dû le deviner. »« Es-tu folle? Pourquoi l'avoues-tu ? » cria sa mère. « Parce que ça me fatigue à la fin de le cacher, » répondit Myriel d'une lèvre dédaigneuse. Le père ne disait rien, il ne trouvait pas de mots. « Ça la lui coupe !» fit Louis avec quelque compassion pour le désarroi où il voyait l'auteur de ses jours. « Écoute, Myriel, » reprit Madame Sébastien au bout d'une minute, « nous devrions concerter nos plans ensemble parce que tu déranges les miens et je dérange les tiens. »« En effet, » murmura Myriel, qui, alors, cacha sa figure dans ses deux mains et fondit en larmes. « Diable de femme ! Diable de femme !» prononça enfin Sébastien Champieux entre ses dents serrées. « Papa, je me solidarise. Tu oublies mon couteau, » cria Louis. « J'ai aussi fait mon possible. Maman, Myriel et moi, nous sommes un bloc. Nous marchons au château comme un seul homme. » Il jetait des regards inquiets vers sa sœur, qu'il n'avait jamais vue pleurer depuis qu'elle était une grande fille. Ses sanglots étouffés lui crispaient les nerfs, l'émouvaient. Il s'agissait bien du château, pauvre Myriel. « Tout n'est pas perdu. » souffla-t-il dans l'oreille de sa sœur. Myriel agita une main avec impatience, tandis que de l'autre, elle continuait à se cacher les yeux. Elle avait comme une vision intérieure, misérable et grotesque, de deux taupes aveugles, allant au hasard, fouillant la terre du museau et des pattes, jusqu'aux pièges qui les pincent, qui les étranglent, qui les exposent mortes et répugnantes, dans la grande clarté qu'elle fuyait. Une sorte de rire nerveux s'emparait d'elle après les sanglots. Elle se revoyait devant ce téléphone, au fond du terrier des Denizet, mais ce n'était pas elle, la blonde, la fine, la renchérie, c'était un être de cauchemar que son hallucination lui révélait, une créature inférieure, souterraine, aux yeux furtifs, aux gestes mal intentionnés et tâtonnants. Elle se prenait en dégoût, surtout pour avoir dépensé son audace et son adresse à se jeter en pleine trappe. L'ennui, avec ses secrets de famille, c'est qu'il faut les garder, fit Louis au bout d'une minute d'un air méditatif. Et tout le temps, on a peur de vendre la mèche. Précisément, fit son père avec amertume, tu ne saisis pas la beauté de l'esprit de famille. On est tous complices les uns des autres. Me voici seul, vous êtes trois contre moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous trahir, j'ai les bras cassés. Il crut même qu'il en perdait l'appétit. Il allait le dire, mais il se ravisa. Il ne faut pas dire trop vite les choses graves. François Denizet n'éprouvait pas pour Myriel un amour bien violent. Toutes circonstances égales, il aurait préféré Rosanne parce qu'elle était brune et qu'il était très blond. Mais les dames du Pommier n'avaient qu'une petite position, tandis que les Champieux étaient les Champieux. Cet axiome se passait de paraphrase. D'ailleurs, Madame Denizet, bien que son dernier entretien avec Myriel eût été dépourvu de charme, ne cessait d'aiguillonner son fils. « Nous la tenons, disait-elle, ne la laisse pas échapper. » « Je n'aime pas cette façon de lui faire la cour en lui mettant le couteau sous la gorge, » rétorquait François, tortillant sa moustache. « Les douceurs viendront après. » Justement, une occasion se présentait de tâter le terrain. Les jeunes gens de Fontfraîche, fils de bons cultivateurs pour la plupart, formaient une petite confrérie qui s'appelait l'Union des garçons. À l'automne, les travaux de la campagne achevés, ils organisaient une sortie et, à la fin de l'hiver, un bal. C'était une société assez exclusive, car l'esprit de caste est partout. Un ostracisme, dont les lois tacites étaient reconnues par l'esprit du village, établissait à la porte un guichet fort étroit. Les garçons qui louent leurs bras n'étaient point admis, non plus que ceux dont le père emprunte un cheval pour la fenaison. Le commis des Denizet, classé parmi les gens à gage, n'aurait même pas songé à poser sa candidature, et le fils de l'horloger mécanicien, qui travaillait avec son père à raccommoder tout ce qu'on abîmait dans la commune, de montres, de machines à coudre, de bicyclettes et même de parapluies, n'était entré dans l'union des garçons qu'après un combat héroïque. Le choix des jeunes personnes invitées aux deux solennités annuelles se faisait d'après les mêmes principes. Une liste était élaborée par le comité, on en donnait lecture. Aucune excursion en dehors de ce terrain n'était admise. Mais on rencontre toujours plus sélecte que soi. Myriel Champieux, deux fois portée en lice, avait deux fois refusé l'invitation du président lui-même. Sous des prétextes, elle était invitée à la ville, elle avait mal aux pieds, à peine se donnait-elle la peine de trouver une raison. Mais l'autre soir, à l'assemblée des 15 membres, François Denizet avait dit « Revenons à la charge auprès de Mademoiselle Champieux. Je crois qu'elle acceptera cette fois. » Et il était là, assis dans le salon Champieux, sur une des chaises de reps rayées vert et brun, un peu intimidé par la splendeur du lustre à pendeloques, des portraits à l'huile où M. Sébastien Champieux et son épouse se détachaient, lui sur un fond chocolat, elle sur un fond moutarde, du cabinet boule imitation, hérissé de bordures en cuivre ajouré et plein de petites horreurs en porcelaine, des coussins que le pinceau de Myriel avait couverts de bouquets, de marines, de petits hollandais. Pour François Denizet, ce bric-à-brac représentait tout le luxe et toute la beauté. Les yeux errants, il tournait et retournait son chapeau melon sur la pointe de son genou, comme s'il essayait de l'encoiffer. Ce mouvement machinal, un peu ridicule, énervait Myriel. Suivant la mode du village, le jeune homme avait demandé s'il pouvait causer à la jeune fille. Les parents n'entrant en scène que plus tard, on avait échangé les premiers compliments et des remarques sur la température. Denizet saisit cette transition aux cheveux. Oui, l'hiver est à la porte, saison plutôt triste en effet. Nous tâcherons de l'égayer par quelques plaisirs. L'Union des garçons organise une partie pour le 15 décembre. Une partie de traîneau s'il y a assez de neige, suivie d'un souper et d'une petite sauterie. Je suis venu vous demander, Mademoiselle Champieux, si vous nous feriez l'honneur d'y prendre part et si vous m'accorderiez, à moi, le privilège d'être votre cavalier. Myriel fit une petite moue. Depuis la veille, son désarroi était complet. Elle avait pleuré, elle avait souhaité mourir, elle ne comprenait plus pourquoi elle s'était sottement dénoncée et mise à la merci de son frère. Son père et sa mère comptaient moins. Elle ne renonçait pas à Laurent Mestru. Ah non, elle était trop fille de sa mère pour lâcher si facilement un morceau convoité. Elle voulait ce mariage, encore et toujours et plus que jamais. Mais devant l'entassement d'obstacles dont plusieurs avaient été empilés par ses propres mains, elle éprouvait la nausée de l'absolu découragement. François vit sa moue et en fut vexé. Il brusqua les préliminaires. « Dans l'état des choses, mademoiselle Myriel, dit-il, vous ne pouvez guère refuser. » Il avait préparé cette phrase agressive, comme il avait préparé la formule polie d'invitation, il l'avait apprise par cœur. Il la lâchait maintenant, comme on lâche un coup de fusil après avoir visé. Myriel pâlit un peu, mais ne broncha pas. Elle réfléchit une seconde, plusieurs réponses étaient prêtes à passer sur ses lèvres. Elle choisit la plus hautaine et la plus dégagée. « Il se peut que je vous comprenne, monsieur Denizet, mais expliquez-vous pourtant. » François en demeura stupéfait. Cette blonde n'était évidemment pas du même blond que lui. Il était le blond bon enfant, un peu mou, volontiers goguenard, jouisseur, pas méchant. Elle était la blonde froide, aux yeux de palacier, à l'esprit fin et tranchant comme une lame, et fière et bravache avec cela. Elle lui plut énormément, presque autant que si elle eût été brune. Il pensa, « Je la veux, à moins d'impossibilité. »« Voici, dit-il, j'étais dans mon bureau le matin où vous avez joué un petit tour, malicieux, par téléphone. »« Je m'en doutais, répondit-elle, votre bureau est très bien placé. » Rien que par ce petit mot, elle retournait toute la situation. Elle mettait François dans son tort, elle faisait de lui un espion. « Permettez, » fit-il, assez vivement pour montrer qu'il était touché. « C'est tout à fait par hasard que je vous ai entendu, et j'ai gardé le secret. »« Vraiment, » dit Myriel d'un air sévère, « il m'a semblé au contraire que Madame Denizet était au courant. »« Ah oui, n'est-ce pas? Ma mère, c'est différent. » Il était mal à l'aise, Myriel lui imposait. Elle avait une attitude de petit juge, la pointe de son coude appuyée légèrement sur le bord d'un guéridon et la main en l'air, voltigeant fine et blanche par petits gestes qui accompagnaient les paroles. Un mince bracelet d'or à grelots, teinté, frêle et ironique. Les cheveux blonds bouffés, le regard glissé sous les cils de soie fauve, déconcertant comme une énigme. Myriel, qui s'était apprêtée pour sortir, laissait voir une bottine brune, forte et bien coupée, au bord de la jupe étroite, en gros drap bourru. Et François, moitié en camelot, moitié en amoureux, appréciait tous ces détails. La jeune fille reprit enfin. « J'avoue que je ne saisis pas le rapport. » Elle se tut. Comme François, de plus en plus embarrassé, se taisait également, elle poursuivit. « Oui, le rapport entre votre invitation et mon tour malicieux, comme vous dites. Vous avez laissé entendre qu'il ne m'est guère possible de refuser. » Voici comment je vois la chose, prononça enfin François, frottant sa moustache tout à l'envers, tant son trouble commençait à lui faire perdre la tête. « Vous et moi, mademoiselle Myriel, nous avons un secret ensemble. Alors il convient, n'est-ce pas, que nous soyons bons amis. Parce que, quant à moi, je serais désolée que la chose se répande. À moi, au contraire, cela m'est parfaitement égal, dit Myriel, qui fit claquer ses doigts minces. Mon père, ma mère, Louis, sont déjà au courant. Je n'ai pas de secret pour ma famille. Quant au principal intéressé, M. Laurent Mestru, votre mère a pris soin de le renseigner parfaitement en ma présence. Alors, révélez, ne révélez pas, que voulez-vous que ça me fasse? Mais que voulez-vous que ça me fasse? répéta-t-elle en appuyant les mots d'un petit éclat de rire. Puis elle ajouta « Votre démarche, c'est du chantage, vous savez ?» François Denizet se dressa comme un ressort, resta une seconde suffoqué, puis salua Myriel et sortit. Elle se mordit les lèvres, comprenant qu'elle n'avait pas été habile jusqu'au bout.